donc qui va être donc celle de Alexis Delamarre, donc sur le sujet « Les sentiments ne doivent rien au hasard, affectivité, être au monde et désir chez Michel Henry et au-delà ». Donc quelques mots pour présenter Alexis, donc qui enseigne à l'université de Rouen, qui est doctorant en contrat doctoral, qui réalise sa thèse donc sur sur la phénoménologie des émotions de Husserl et au-delà, et qui a déjà publié également quelques articles et traductions ou des textes en voilà qui sont déjà pressentis pour être publiés dans les Husserl Studies, notamment dans les Studia Phenomenologica, et des traductions à venir ou déjà publiées dans différentes revues anglaises. Voilà, donc je te laisse la parole, je te cède la parole, Alexis, pour ta conférence.
Merci beaucoup, Nathalie. Je vais peut-être mettre la vidéo si cela fonctionne.
Oui, très bien. Je coupe mon micro.
Effectivement, je trouvais qu'avec Camille, c'était plus vivant avec l'image. Je suis ravi de pouvoir intervenir ici aujourd'hui après plus d'un an de report. Je souhaiterais tout d'abord remercier bien sûr Nathalie et Aurélien pour leur pugnacité, pour avoir réussi à organiser cette séance malgré les éléments défavorables et la situation que tout le monde connaît. Je commencerai mon exposé simplement par une observation que Nathalie a bien rappelée tout à l'heure, celle de la fécondité de la phénoménologie du sentiment. Cette fécondité qui est donc évidente dans la tradition historique de la phénoménologie à travers les figures de Scheller, d'Heidegger, d'Henri que Nathalie a rappelé, semble s'expliquer au fond assez aisément. Le sentiment n'est pas une réalité au sens mécanico-physique. Il n'est pas dans le monde au sens d'une chose, d'une table ou d'une vitesse. Son être tient au fond tout entier dans son apparaître, dans son caractère de vécu. Dès lors, le sentiment se révèle dans son irréductibilité à toute approche à la troisième personne et à toute objectivation et représente ainsi, de manière paradigmatique, comme une forme de frontière où s'évanouit la légitimité de la méthode réifiante de la science et où s'affirme au contraire la validité exclusive du point de vue phénoménologique. Ces remarques, je vois que certains élèves sont connectés, ça fait écho à des points qu'on avait vus dans l'introduction de ce cours, j'espère que vous vous en souvenez. Toutefois, ce privilège inaugural donc, pour la phénoménologie vis-à-vis de la sphère affective ne constitue pas une fin, mais seulement un point de départ. Ce n'est pas parce que le sentiment, d'une certaine manière, se donne à la phénoménologie alors qu'il se refuse à la science expérimentale que celle-là pourrait se satisfaire d'en jouir de manière, on pourrait dire, purement contemplative, pourrait se contenter d'enregistrer passivement cette donation et de la décrire sur un mode quasi-poétique. À rebours, ce privilège insigne que possède la phénoménologie doit n'être que le commencement de son étude, une étude qui, loin de simplement éprouver le sentiment, au contraire, l'analyse, le dissèque, l'examine sous tous ses angles et le scrute sous toutes ses coutures. La phénoménologie doit ainsi, selon cette perspective, partir du principe qu'il existe une pluralité d'espèces de sentiments, la peur, la joie, l'amour, le désespoir, espèces qui sont toutes identifiables, distinguables, repérables. Cette identifiabilité est du domaine de l'évidence. Lorsque j'éprouve un sentiment, je peux dire, la plupart du temps de manière assurée, de quelle espèce il s'agit. L'existence de cas d'indétermination ne doit pas nous égarer. Une telle indétermination vaut pour tous les concepts que nous utilisons, et les concepts affectifs, de ce point de vue, sont, je dirais, dans la moyenne. La première conclusion de la phénoménologie du sentiment doit donc être la suivante. La sphère affective ne forme ni une jungle inextricable, ni un abîme insondable, ni même une durée où, pour reprendre l'expression de Bergson, chaque émotion serait, je cite, comme un état unique en son genre, indéfinissable. Non, nous sommes en mesure d'identifier nos sentiments et de les organiser, de les articuler en familles distinctes. Mais ce n'est pas tout. La sphère affective n'est pas simplement structurée de manière classificatoire en genre et espèce. En elle s'attestent également des lois, une légalité proprement affective qui met précisément en rapport les différents sentiments en vertu de leur appartenance au genre et espèce qui viennent d'être mis au jour. Je distinguerais deux plans où joue une telle légalité affective. On observe d'abord une légalité intra-affective. Celle-ci met en rapport les vécus affectifs entre eux. Par exemple, tout sentiment de jalousie enveloppe un sentiment d'amour. Ou encore, pas de joie sans plaisir. Ensuite, une légalité extra-affective. Celles-ci mettent en rapport le sentiment avec les autres types de vécu et notamment les perceptions. De ce point de vue, nous pouvons établir des lois du type « si j'aime quelqu'un et que je vois cette personne, alors je suis joyeux ». Inversement, l'annonce de sa mort me rend triste. Notons que cette légalité affective n'a pas la contingence qui est la marque de toutes les lois strictement empiriques. Elle engage en effet le sens même des sentiments en jeu. Que je sois amoureux d'une personne donnée, amoureux ou amoureuse, cela est contingent, tout comme est contingent le fait que je l'aperçoive ici et maintenant. Mais que sous ces deux conditions, je ressente du plaisir, cela est désormais eidétiquement nécessaire. La légalité affective est une légalité d'essence. À partir de là, se dégagent trois exigences précises que la phénoménologie affective se doit d'honorer. Elle doit tout d'abord nous permettre de distinguer les sentiments des autres classes de vécu. Elle doit ainsi saisir l'essence du sentiment. Elle doit nous dire en quoi la peur, l'amour, la colère, etc. sont tous des vécus affectifs et ceux qui les distinguent, par exemple, des vécus cognitifs. En outre, la phénoménologie doit nous fournir un principe qui nous permet de diviser le genre sentiment en classes et en espèces. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment, au sein du genre sentiment, on acquiert une pluralité d'espèces et pourquoi l'on acquiert ces espèces-ci. On ne peut pas se contenter de noter simplement les différences qualitatives entre sentiments. Enfin, une fois ces deux tâches remplies, la phénoménologie doit se montrer capable d'en déduire à la fois les lois intra-affectives et les lois extra-affectives. Il s'agit donc d'un programme chargé. Mon exposé d'aujourd'hui va consister, dans son premier moment, à étudier la théorie des sentiments que propose Michel Henry, que Nathalie a esquissé en introduction, et à l'évaluer au regard des tâches que nous venons de décrire. Ce choix de Michel Henry est naturel, il est tout simplement justifié par le fait que Henry place précisément l'affectivité au cœur de son projet phénoménologique, peut-être plus que tout autre phénoménologue. Et nous nous concentrerons surtout, et même exclusivement, sur la théorie du sentiment que Michel Henry développe donc dans l'essence de la manifestation. Michel Henry parle d'une inspiration que l'on pourrait en fait faire remonter de manière, je dirais, assez originale à Descartes et à l'article 27 des Passions de l'âme. Descartes, et à nouveau ici les élèves qui m'écoutent auront des souvenirs de cours, Descartes, il définit en effet la passion comme une pensée, donc un mode de la res cogitans qui se rapporte particulièrement, le terme de Descartes, à l'âme elle-même. Cette caractéristique permet à Descartes, ainsi qu'il le précise à l'article 29, de différencier les passions des sensations, tant celles qui se rapportent aux choses extérieures qu'à celles qui se rapportent à notre propre corps, comme la douleur. La passion fait donc surgir un mode spécial de l'apparaître. Alors que la perception externe et la nociception interne révèlent une extériorité, un objet que le sujet n'est pas, au contraire, dans la passion, l'âme, et seulement elle, se manifeste à elle-même dans une présence à soi, dans une pure autophanie. En d'autres termes, là où la sensibilité, tant externe qu'interne, demeure toujours une phénoménalisation de la transcendance, la passion expose, ou plutôt impose, la pure sphère de l'immanence. Cette approche cartésienne est cependant marquée pour Henry par une lacune principielle. Puisqu'à ce rapport de soi à soi qui est constitutif de l'affectivité, Descartes adjoint dans sa définition même une dimension de passivité causale. Les passions sont en effet posé, entretenu et fortifié par quelques mouvements des esprits, on est de nouveau à l'article 27 ici, des esprits, sous-entendu des esprits animaux, bien sûr. Passion cartésienne reste donc entièrement tributaire d'une conception de la passivité dans laquelle le corps, donc précisément l'extériorité, agit sur l'âme. Elle demeure ainsi dépendante, en son fondement, du primat de la transcendance. Il faut d'abord qu'une altérité à soi soit posée et reconnue comme existante, le corps, pour que la passion puisse être définie. Or, pour Michel Henry, c'est précisément cette antériorité de la transcendance que le sentiment permet de récuser. La passion doit être reconnue dans sa structure eidétique propre, qui précède et qui demeure indépendante de toute manifestation transcendante. Comme il le précise, ici on est page 587 de l'essence de la manifestation, le processus en troisième personne qui suscite du dehors la modification affective de la pensée et par suite, selon Descartes, le surgissement de l'affectivité elle-même, demeure en fait foncièrement étranger à la structure de l'essence où l'affectivité puise sa possibilité interne. À ce stade, cependant, une méprise doit être signalée et évitée. Il pourrait sembler, au vu des mots et des termes qu'emploie Henry, en particulier cette idée de processus à la troisième personne, que ce dernier ne fasse que reprendre au fond le constat qui a inauguré notre exposé, à savoir que les phénomènes affectifs sont irréductiblement des vécus. Une approche à la troisième personne ne pourrait que travestir, que trahir. En un mot, Henri ne ferait que répéter le geste husserlien de l'époque transcendantale. L'immanence dont il serait question ne serait que cette sphère réduite du vécu pur, absolu et indubitable, comme décrit dans les Iontrains. En particulier, toute existence transcendante d'un corps, même d'un corps propre, serait mise hors circuit, ce qui permettrait de libérer ce domaine pur de la passivité selon son mode spécifique de donation, sans faire entrer en ligne de compte l'action empirique parasite d'une res extensa. Une telle interprétation serait cependant, bien sûr, totalement contraire au dessin de Michel Henry. Celui-ci, au paragraphe 56 de l'essence de la manifestation, nous met explicitement en garde. Ce que Husserl circonscrit comme immanence, et même, notons-le, l'immanence radicale du matériau illétique précatégorial, tout cela pour Michel Henry aurait une forme transcendante de phénoménalisation. Ces sensations, même non encore objectivées comme sens logique, sont encore en effet une forme d'altérité à soi, d'extériorité à soi, qui instaure un espace entre l'ego et ses contenus, entre le sujet et ses datas. Elles ne sont pas, comme le dit Henri, la vie elle-même dans sa subjectivité absolue. Ce qui constitue, au contraire, cette vie, ce n'est précisément pas la sensation, même phénoménologiquement réduite au pur datum, mais, précisément, le sentiment. Un sentiment qui n'est pas entendu comme sentir de, mais un se sentir soi-même, et qui se réalise concrètement dans les phénomènes affectifs, dans la passion, dans la souffrance, dans la joie. Alors que la phénoménalité transcendante sous tous ses avatars, que ce soit l'imagination, la perception ou même l'évaluation, établit un écart incompressible entre le soi et l'objet, entre la vie et l'être, l'affectivité, dans son immanence absolue, résorbe cette distance, non pas dans un contact, dans une immédiateté ou dans une coïncidence, mais bien plus profondément dans une pure et simple, terme que Nathalie a utilisé dans son introduction, comme pure et simple auto-affection, auto-révélation, dans laquelle le sujet et le contenu sont purement et simplement le même, ne sont rien d'autre que l'identité même du soi. Cette intuition de Michel Henry, que j'ai décrite avec des termes qui pourraient sembler abstraits ou difficiles, est justifiable phénoménologiquement et peut même se formuler en des termes simples. Au fond, que dit la tristesse? Se dirige-t-elle vers quelque chose, vers un objet qui se donnerait ou même simplement serait présumé en elle? Pas le moins du monde. La tristesse est bien une manifestation, elle révèle bien quelque chose, mais elle ne dit rien du monde qui m'entoure, elle ne dit rien de mon propre corps et elle ne fournit en particulier aucune information sur les choses extérieures. La tristesse ne révèle rien d'autre qu'elle-même. Comme le résume synthétiquement Michel Henry, le sentiment, tout sentiment possible en général, se révèle de telle manière que ce qu'il révèle dans cette révélation qui le constitue, c'est lui-même et rien d'autre. On est page 693 de l'essence de la manifestation ici. Ou encore, à la même page, de manière plus décisive encore, ce que révèle la haine, c'est la haine elle-même et rien d'autre. Ce que révèle l'amour, c'est l'amour. Et pareillement, l'ennui révèle l'ennui, le désespoir révèle le désespoir, la crainte, et l'angoisse révèle, découvre, exhibe, fait voir l'angoisse et rien d'autre. Cette vision autophanique du sentiment interdit à Michel Henry de voir en lui une quelconque forme d'intentionnalité, que ce soit celle d'une préhension de valeur, d'une verte némung, qu'on retrouve chez Husserl et surtout chez Scheller, ou celle d'une mise au jour du néant du monde et de la finitude corrélative du Dasein, comme c'est le cas pour l'angoisse heideggerienne. Le sentiment en rien est en quelque sorte doublement adhérent à lui-même, de ce fait. Il n'est ni causalement déterminé par le corps, comme chez Descartes, ni intentionnellement déterminé par son objectal, comme c'est le cas chez Husserl, Scheller ou Heidegger. Il n'est débordé ni par l'arrière, par une nécessité empirique dont il ne serait que l'effet, ni par l'avant, par une valeur ou par le néant dont il ne serait que la visée affective. Nous pouvons désormais nous demander si une telle caractérisation du mode de révélation propre au sentiment permet ou non à Henri de satisfaire à notre exigence d'une élucidation de la légalité affective. Il faut malheureusement couper court à tout suspense et répondre immédiatement par la négative. Certes, Henri répond à la première exigence que nous avons posée, celle de préciser l'essence du sentiment et sa spécificité vis-à-vis des autres types de vécu. Le sentiment est, précisément, autorévélation, autophanie, comme on l'a aussi dit. En revanche, sa perspective ne permet pas de comprendre la diversité des espèces affectives. Puisque l'auto-affection se réalise dans chacune de ces espèces, elle est le fondement de leur unité, mais nullement le principe de leur distinction. Henri ne peut donc que se contenter de constater comme une évidence phénoménologique ces différences qualitatives. Je cite ici la page 697. C'est par elle-même, en elle-même, dans sa réalité phénoménologique propre, irréductible et irrécusable, qu'une joie, par exemple, se distingue d'une peine, d'un plaisir, de l'ennui. Ou encore, page 694, la haine est haine, la souffrance est souffrance. Pour cette raison, Henri rejette explicitement la classification affective qui fait le départ entre émotion et sentiment en fonction de leur durée, l'émotion brève et le sentiment durable. Mais surtout, il semble s'opposer à toute velléité classificatoire. Celles-ci lui apparaissent toutes par essence vaines, puisque, comme il le dit, la tonalité spécifique de chaque sentiment est distincte. On a ainsi l'impression que l'exhibition phénoménologique de la variété des affects serait pour Henri un télos, et qu'il serait insensé de chercher à articuler ou organiser plus avant cette multiplicité. Le même problème se fait jour quant à la légalité affective. C'est notre troisième exigence dans nos productions. Henri ne nie pas l'effectivité d'une telle légalité, la réalité d'une telle légalité. Il analyse au contraire, certes brièvement, la proposition selon laquelle la haine est malheur. Mais à nouveau, il se contente simplement de prendre acte de cette normativité, qui apparaît dès lors comme un fait inexplicable, inintelligible. Plus encore, toute tentative de dépasser cette pure et simple reconnaissance immédiate de cette proposition, toute aspiration à justifier cette assertion en la ramenant à des principes antérieurement établis, est d'emblée récusée par Henri. Ce serait, dit-il, un commentaire gratuit. On reste donc, en définitive, sur notre fin. Il faut en convenir, la phénoménologie des sentiments de Michel Henry, malgré évidemment son originalité et sa richesse, ne satisfait pas à nos espérances initiales. Je vais donc désormais chercher, dans une deuxième partie, à esquisser une théorie du sentiment qui dépasse les lacunes qui viennent d'être identifiées de la conception d'Henry. Je vais pour ce faire partir de deux exemples, la peur et l'amour, ce qui me permettra d'aborder la question de l'érotisme. Cette approche inductive me servira à légitimer l'existence, qui sera approfondie en conclusion, de deux classes distinctes de sentiments, respectivement les émotions, représentées ici de manière paradigmatique par la peur, et les désirs, représentés ici de manière paradigmatique par l'amour. Commençons donc par la peur. On la conçoit usuellement d'après le paradigme de la fuite. Un simple coup d'œil aux définitions qu'en donne l'âge classique confirme l'ubiquité d'une telle perspective. Ainsi, Hobbes, au chapitre 6 de Léviathan, définit-il la peur, fear, comme une aversion, je cite, hein, une aversion jointe à l'opinion d'un dommage causé par l'objet, l'aversion étant elle-même, à son tour, l'effort qui tente à nous éloigner de quelque chose. Selon ce paradigme, la peur serait donc avant tout une passion active, un effort, précisément. Elle jouerait ainsi un rôle de catalyseur pratique, pourrait-on dire, fournissant au corps une énergie formidable qui permettrait à l'agent, lorsque se présente notamment une situation de mort imminente, d'esquiver la menace. On retrouve cette conception de la peur jusqu'au début du XXe siècle, notamment chez les physiologistes de l'affectivité comme Cannon, qui met en lumière le rôle de l'adrénaline et élabore l'idée d'une fight or flight response de l'organisme dans une situation de danger, cette idée qui est toujours considérée comme pertinente pour comprendre les mécanismes, notamment neurologiques, des phénomènes affectifs. Cette conception catalysante de la peur, il faut, à mon sens, en vérité, la renverser. Selon ma perspective, la peur n'est pas essentiellement catalysante, mais au contraire essentiellement paralysante. Elle est d'abord et intrinsèquement une force inhibitrice et non excitatrice. Et en vérité, ce paradigme mobilisateur de la peur, qui pourrait sembler si naturel au premier abord, est d'emblée invalidé par les faits. Les expériences menées notamment par Joseph Ledoux, qui ont été synthétisées par lui dans son ouvrage de 1996 dit « Emotional Brain », mettent en effet en évidence la primordialité de la réaction dite de « freezing », c'est-à-dire d'immobilisation sous l'effet de la peur. Concrètement, Ledoux apprend à des rats, qui sont placés dans des petites cages, à avoir peur d'un certain stimulus, par exemple d'un son. Ce conditionnement à la Pavlov, conditionnement de type pavlovien, est réalisé en faisant suivre chaque émission du son d'un choc électrique, bref, sur la patte de l'animal. Qu'observe-t-on alors? Eh bien, le rat associe le son à la douleur et manifeste à la simple audition du son, avant donc le choc électrique, des raies nouvelles. Que fait-il? Se met-il à courir en tous sens en cherchant à s'échapper par tous les moyens, comme le suggérerait précisément le paradigme de la peur-fuite? Pas du tout. Comme le dit Ledoux, le rat s'arrête net et adopte la posture caractéristique du freezing, c'est-à-dire s'accroupit et reste immobile. Notons rapidement que cette attitude s'explique très bien d'un point de vue adaptatif, puisque les prédateurs réagissent au mouvement Et l'immobilisation apparaît très souvent comme étant la stratégie la plus efficace à proximité d'un danger. Il faut cependant également noter que cette réaction de freezing n'est pas propre à l'animal. Au contraire, l'être humain fournit également de nombreux contre-exemples à la théorie de la peur mobilisatrice, de la peur fuite, de la peur active ou de la peur catalysante. Ces contre-exemples, donc, peuvent en particulier être tirés des situations de catastrophes maritimes ou aériennes. On s'imagine souvent dans ces circonstances des scènes de panique, mais il s'agit en vérité d'une erreur. Les naufragés sont très souvent apathiques, paralysés par la peur, précisément. Un rescapé du navire Estonia, dont le naufrage en 1994 a coûté la vie à 852 personnes, décrit ainsi les gens simplement assis, complètement choqués. Je ne comprends pas pourquoi, ils ne font rien pour s'en sortir. Ils sont juste assis là et sont submergés par l'eau lorsqu'elle entre. Ces illustrations nous autorisent à considérer le freezing comme inhérent à la peur elle-même et constituant sa manifestation, on va dire, la plus pure dans l'ensemble du règne animal, y compris donc chez l'être humain. Loin donc d'être un effort ou une aversion active face à une menace, comme le pensait Hobbes et comme le décrit également Descartes, la peur est essentiellement une paralysie pratique qui se révèle d'abord et avant tout dans l'immobilisation du corps. Je vais désormais essayer d'approfondir phénoménologiquement ce modèle de la peur qui a été esquissé à partir de ces expériences menées sur les rats par Joseph Ledoux. Et pour ce faire, je commencerai par proposer une distinction entre la crainte et la peur. Je définis simplement la crainte comme désir négatif, ou plus précisément désir de ne pas. Là où le désir vise à la réalisation, le désir au sens strict, vise à la réalisation d'un état de choses, la crainte vise à l'empêchement de cette réalisation. Parallèlement au désir, qui traduit l'apprentissage de ce qui bénéficie à l'agent, la crainte traduit l'apprentissage de l'agent vis-à-vis de ce qui lui nuit. Le feu, par exemple, m'a brûlé, je crains désormais de m'en approcher. Cette crainte a dès lors un rôle motivationnel, je me tiens à distance des flammes. Ce caractère motivationnel de la crainte, il faut le noter, est essentiel, indispensable à la prudence et à la rationalité pratique. La personne prudente craint de traverser au feu rouge, elle refuse ainsi de s'engager et attend que le feu passe au vert. Cet exemple donc de la personne qui attend au feu rouge est peut-être la meilleure illustration de la différence entre la crainte ainsi définie et la peur. La personne prudente qui attend le feu vert craint de traverser, soit, mais a-t-elle le moins du monde peur? C'est-à-dire ressent-elle ce que Maupassant dans ses nouvelles a dépeint comme, je cite, « une sensation atroce ». Comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur. Pas du tout. La personne qui attend au feu rouge est parfaitement calme. Son sang-froid, sa sérénité, sa lucidité sont intacts. Les sentiments de peur et de crainte doivent donc être rigoureusement distingués. Leur distinction, toutefois, n'interdit pas leur interdépendance. La confusion courante de la peur et de la crainte n'est pas due au hasard. La peur, comme je le défends, est dans son essence une paralysie pratique. Pour le dire désormais avec plus de précision, elle consiste non pas dans la génération de la crainte, puisque celle-ci, on vient de le voir, existe indépendamment d'elle, mais dans son renforcement, et plus exactement encore, la peur consiste dans l'intensification globale et brutale de la crainte. La peur ne fortifie pas seulement telle ou telle crainte déterminée, mais modifie l'équilibre global de notre système de désir en renforçant globalement la force de l'inhibition. Alors, je vais essayer de préciser cette idée, qui peut sembler au premier abord abstraite, sur quelques exemples. Et tout d'abord, sur un exemple, l'exemple de Maupassant, dans la même nouvelle que celle dont je viens de citer l'extrait pour cette expérience phénoménologique de la peur. Eh bien, donc, il s'agit de la nouvelle « La peur », justement, et qui, dans laquelle le narrateur décrit deux expériences vécu de terreur extrême. Je vais m'apesantir surtout sur la seconde. Donc, le narrateur raconte qu'il se trouve dans une cabane au milieu de la forêt lors d'une nuit d'orage en compagnie d'un garde forestier et de sa famille. Une ombre passe alors devant la porte. Le garde forestier croit reconnaître en cette ombre le spectre d'un homme qu'il avait tué 2 ans auparavant. Il tire. Le narrateur poursuit alors « Et je vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais point, j'eus une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps que je me sentis défaillir, prêt à mourir de peur. Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible. » Comment interpréter la situation? Il est naturel de craindre le spectre, même un spectre potentiel, et par exemple de chercher à l'éviter. ou de se protéger de ces attaques. Un certain nombre d'actions et d'attitudes sont dès lors inhibées. En présence du spectre, je ne vais pas marcher vers lui, je ne vais pas me mettre dans une position de vulnérabilité. Voilà ce qui ressortit à la crainte seule. Faisons maintenant entrer la peur en scène. Ce qui s'observe alors, c'est que la totalité des actions et des ressources pratiques imaginables est dorénavant inhibée. Dire un mot, bouger selon les termes mêmes de la nouvelle, sont désormais des conduites impossibles, proscrites en quelque sorte par la peur. Comme en témoignent également les rescapés de grandes catastrophes, la peur inhibe même la pensée. Là où la crainte, dans la prudence pratique usuelle, interdit, pourrait-on dire, une certaine sélection d'actions en vertu de leur nocivité apprise, comme traverser au feu rouge, la peur, quant à elle, généralise cette interdiction, cette inhibition, et bride tout mouvement et toute réflexion. C'est précisément cette généralisation de l'inhibition qui caractérise l'essence de la peur et rend compte de cette dimension paralysante. En d'autres termes, la peur est une globalisation irrationnelle de l'inhibition, de Sartre, de magique. On notera simplement en passant que cette distinction entre peur et crainte a de vastes conséquences politiques. L'interdiction, au sens ici de la loi, est une source de crainte. Elle inhibe une conduite déterminée, par exemple le vol. Elle permet ainsi de canaliser, d'orienter la praxis sociale. La peur, en revanche, quel que soit ce qui la déclenche, paralyse la totalité de l'activité et produit une léthargie du corps politique que le pouvoir peut alors exploiter à sa guise. Le concept arendtien de terreur, annihilant toute spontanéité individuelle, est peut-être celui qui se rapproche le plus de cette conception de la peur. J'aurais également montrer comment l'on peut comprendre au sein du paradigme de la peur comme paralysie que j'ai développé, comment on peut comprendre cette peur motrice, cette peur fuite, qui est un phénomène bien sûr indubitable et fondamental. Mais je m'arrête cependant là pour ne pas être trop long. Ce que je souhaite avant tout souligner, c'est la différence entre la peur et la crainte. Cette distinction représente de manière exemplaire la division au sein de la sphère de l'affectivité entre le désir et l'émotion, entre le domaine conatif et le domaine émotionnel. La crainte est un type de désir, un désir négatif, un désir de ne pas, comme je l'ai mentionné. Mais elle n'est pas une émotion, contrairement à la peur. Je reviendrai en conclusion sur la théorie générale des émotions que cette conception implique. Pour l'instant, je vais chercher à approfondir encore cette distinction entre émotion et désir à travers un second exemple, un nouvel exemple, qui est celui, donc, comme annoncé tout à l'heure, de l'amour. Le concept d'amour que j'utilise ici doit être pris dans son sens le plus général. Il inclut les manifestations les plus diverses du phénomène. L'amour-passion, mais aussi l'amour pour ses parents, l'amour au sens de la filia, de l'amitié, ou l'amour de son chien, de son chat. Comment unir ces différentes manifestations de l'amour dans un modèle unitaire? Je commencerai d'abord par élucider la genèse de l'amour. Et l'amour pour la mère nous fournit ici une ligne d'analyse paradigmatique. Le sentiment d'amour se développe au contact d'un objet qui apparaît comme une source de plaisir. La mère satisfait en effet les multiples désirs du nourrisson. Elle le nourrit quand il a faim, elle le soigne quand il souffre, elle le réchauffe quand il a froid. Chacune de ces satisfactions donne lieu à un plaisir. Et parce que cette satisfaction est en même temps accompagnée de la représentation maternelle, l'image de la mère s'associe progressivement avec le plaisir. Je postule donc une origine associative de l'amour. L'amour résulte de l'association systématique entre un objet et le plaisir. Il faut bien insister ici sur cette systématicité. Celle-ci ne signifie pas que soit requise une multiplicité d'expériences de couplage entre l'objet et le plaisir. Le coup de foudre existe bel et bien. L'amour naît immédiatement en un seul regard qui nous irradie d'extase, comme le poème « À une passante » de Baudelaire le verbalise si rigoureusement. Dans un tel cas, l'amour naît d'une unique association. Ce que j'entends donc par cette constance ou cette systématicité associative, c'est que la présence de l'objet n'est jamais accompagnée de déplaisir. Tyndall donne une preuve frappante de ce réquisite dans son De l'amour. Je cite « Un homme généreux comble une jeune fille malheureuse des bienfaits les plus délicats. On ne peut pas avoir plus de vertu. Et l'amour allait naître. Mais il porte un chapeau mal retapé et elle le voit monter à cheval d'une manière gauche. La jeune fille s'avoue en soupirant qu'elle ne peut répondre aux empressements qui lui témoignent. » Ici, la maladresse ou l'inélégance du jeune homme, qui sont bien sûr source de désagrément, suffisent à nier la systématicité de sa relation entre le prétendant et le plaisir, et donc à barrer l'amour. Il faut cependant noter que nous n'avons à ce stade élucidé que la genèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce sentiment amoureux, c'est-à-dire son origine. Mais il faut bien prendre garde à distinguer cette genèse et l'essence de l'amour. C'est là notamment l'erreur de Spinoza, qui, dans l'éthique, définit l'amour comme une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Si cette définition rend à peu près compte de la naissance de l'amour, elle ne dit rien encore de l'amour comme puissance affective. Cette puissance répond à un principe, en fait, simple. L'être humain et le vivant en général agissent téléologiquement. Il recherche le plaisir et fuit le déplaisir. Or, l'association systématique qui donne naissance à l'amour lui fournit désormais une source sûre de satisfaction. Il suffit de rendre l'objet aimé présent pour éprouver à nouveau du plaisir. Telle est, dès lors, au sens strict, l'essence de l'amour. L'amour est le désir de rendre présent l'objet aimé. Alors, il faut désormais préciser cette première esquisse de définition en nous appesantissant notamment sur ce concept de présence de l'être aimé qui en constitue bien sûr le noyau. Ce terme de présence doit s'entendre en un sens très large. L'amoureux ou l'amoureuse va bien sûr rechercher la présence en acte, et en particulier la présence charnelle de l'être aimé. Aussi, l'union sexuelle peut-elle être vue comme une forme de paroxysme de la présence. L'autre est là tout entier, dans une proximité absolue, dans un contact qui est une fusion. Ce serait là la forme érotique de l'amour au sens propre. L'éros, ou tout du moins sous sa forme que l'on a appelée, Camille, Aurélien, Nathalie ont repris ce terme, l'éros parfait ou l'éros sans ratage, serait une plénitude, c'est le terme de Nathalie, que Nathalie a employé tout à l'heure, une plénitude illimitée, et ce serait précisément cette forme paroxystique de la présence de l'autre. Mais ce terme de présence doit aussi s'entendre dans un sens plus large. Le concept husserlien de présentification, Vergegenwärtigung, peut ici être pertinemment appliqué. L'imagination, la fantasia, tout comme le souvenir, ont la capacité de rendre présent. Quoique cette présence ne soit pas, pour reprendre à nouveau le terme husserlien, leibhaftig, c'est-à-dire en chair et en os. C'est donc aussi en ce sens que l'amoureux recherche la présence de l'autre. Il va, en toute chose, retrouver le visage de l'aimé, fantasmer sa voix dans le souffle du vent, ou se figurer sa main qui a écrit telle ou telle lettre. Tout devient prétexte à la présentification de l'être aimé. Je cite à nouveau un passage de Stendhal, toujours tiré de son « De l'amour », qui illustre bien ce phénomène. « Un voyageur parle de la fraîcheur des bois d'oranger à Gênes sur le bord de la mer durant les jours brûlants de l'été. Quel plaisir de goûter cette fraîcheur avec lui !» Cette activité présentifiante assure à l'amoureux une jouissance constante, car la simple pensée de l'autre éveille par association le plaisir. Et cela fonctionne désormais comme une forme de cercle vertueux, pourrait-on dire. L'association originaire se renforce par la simple convocation imaginaire et exquise de l'être aimé. Plus on aime, plus on songe à l'autre avec délice, et plus on aime. Mais une troisième dimension de la présence reste encore à élucider. Et un parallèle avec la haine peut ici être pertinent et intéressant. La haine est le contraire de l'amour, dans ma perspective. Elle est générée par une association systématique entre un objet et le déplaisir, on reprend la même idée de systématicité, et doit être symétriquement caractérisée dans son essence, on reprend la même distinction entre la genèse et l'essence. La haine doit être considérée dans son essence comme le désir d'élimination de la présence de l'être haï, pour exactement la même raison que l'amour est le désir de présence de l'autre. Cette élimination peut, dans le cas de la haine, consister en une extermination pure et simple, un anéantissement total, mais elle trouve également, il faut le noter, un contentement partiel. La haine trouve un contentement partiel dans le mal fait à autrui. Pourquoi ? Eh bien, faire souffrir autrui, en effet, c'est biologiquement réduire sa distance à la mort, lui conférer donc une vie diminuée, une puissance d'être et d'agir affaiblie, ce qui implique, comme corréla phénoménologique, de restreindre sa présence. C'est cette moindre présence qui satisfait précisément celui qui est. Symétriquement, l'épanouissement de l'autre, sa puissance d'être et d'agir accrue, son rayonnement, tout cela indique une mise à distance de la mort, et donc, corrélativement, une vie supérieure, une présence augmentée, et c'est cette surprésence, en quelque sorte, de l'être aimé qui comble de plaisir l'amour. Pour le dire en termes peut-être plus concrets, l'amoureux ne veut pas simplement que l'autre, ou l'amoureuse, que l'autre soit là, corporellement ou en pensée, il désire ardemment le bien de l'autre et met tout en œuvre pour satisfaire ses désirs et lui épargner ses craintes. L'amour est donc par essence bienfaisance. Scheller a porté encore plus loin cette intuition dans Wesen und Formen der Sympathie. L'amour est pour lui par essence dynamique. Il n'est pas tant une saisie de la valeur d'autrui que, je cite, le mouvement intentionnel vers des valeurs de plus en plus hautes. À l'amour appartient donc une tendance à élever l'autre à son bien authentique, c'est-à-dire à la valeur idéale inhérente à sa nature, mais qu'il ne réalise pas encore. Cette caractérisation schellérienne apparaît donc parfaitement compatible avec notre définition, dès lors que le terme de présence est entendu de manière suffisamment large, comme nous l'avons montré. Enfin, la définition que nous avons proposée de l'amour permet de retrouver ses principaux caractères qui sont reconnus. Tout d'abord, les degrés. Et en particulier, cette insistance sur la différence de degré entre les formes d'amour nous permet de distinguer l'amitié et l'amour-passion, qui diffèrent d'abord en degrés. Et tout simplement, dans notre conception, le degré de l'amour correspond au degré d'intensité du désir. Ce degré d'intensité, qui est lui-même proportionnel au degré de plaisir avec lequel l'objet a été génétiquement associé, ce degré donc de l'amour se mesure principalement en fonction du caractère structurant ou subordonné de l'amour. L'amour-passion devient en effet le désir fondamental de l'amoureux. Toutes ces autres fins apparaissent comme subalternes vis-à-vis de cette fin principale ou de cette fin dominante. Même vivre en quelque sorte, l'amoureux ne le fait que pour l'autre. Ne répète-t-il pas sans cesse « je ne vis que pour toi » Ou, pour le dire avec les mots parfaits d'Hölderlin dans son élégie « Ménon pleurant Diotima »« Maintenant la maison m'est un désert et ils m'ont pris mes yeux. Avec elle, c'est moi que j'ai perdu. C'est pourquoi j'erre ainsi et sans doute devrais-je vivre telle une ombre et plus rien pour moi n'a plus de sens. » En perdant l'être aimé, en effet, l'amant perd le sens même de sa vie. Et ce cliché ou ce poncif, en fait, est phénoménologiquement très juste, car effectivement, ce sens est donné par un désir fondamental structurant la totalité de l'existence. Lorsque ce désir est biffé, le sens de la vie s'évanouit, ce qui aboutit à cette situation, cette description d'Hölderlin de l'ombre de l'être qui a perdu ce sens de la vie, qui a perdu ce désir fondamental et qu'on trouve sans désir. Par comparaison, l'amour filial n'a pas cette hégémonie. L'ami ne subordonne pas toute son existence à la présence du philos. La présence de l'ami, contrairement à la présence de l'être aimé d'amour, au sens de l'amour-passion, apparaît comme une fin parmi d'autres, qui peut être volontairement d'ailleurs mise de côté si d'autres fins plus prépondérantes se manifestent, comme par exemple lors d'un séjour de longue durée à l'étranger. Notre définition cognative de l'amour permet également de rendre compte d'un second caractère de ce sentiment. Il s'agit de son absence de valence hédonique. L'amour peut être à l'origine de plaisir ou de déplaisir. Certes, il naît toujours d'une association plaisante, ce n'est pas pour cela qu'il s'accompagne nécessairement une fois formé de plaisir. En tant que désir, l'amour peut ou non être satisfait. Sa satisfaction est plaisante, sa frustration déplaisante. Louise Labbé a, comme il est connu, rigoureusement décrit ces oscillations hédoniques de l'amour. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. Ainsi, amour inconstamment me mène. Ces fluctuations se comprennent aisément dans notre modèle. Lorsque l'autre se présente, ou est représenté comme présent, alors le sujet est envahi par une jouissance qui est proportionnelle à l'intensité de son amour. Au contraire, lorsque l'autre s'absente, ou lorsque sa présence apparaît diminuée, lorsqu'il subit un mal, entravée, comme dans le refus ou la rupture, voire impossible dans la mort, alors l'amoureux ou l'amoureuse est en proie aux pires souffrances, d'autant plus terribles que son désir était structurant, était fondamental, comme on l'a précisé il y a quelques instants. Le temps de conclure cette intervention est venu. Il me faut donc faire retour, en exploitant les analyses de la peur et de l'amour qui viennent d'être proposées, vers les tâches d'une théorie phénoménologique du sentiment, telles qu'elles ont été décrites dans l'introduction. Nous avions d'abord affirmé qu'une théorie satisfaisante de l'affectivité se devait de déterminer l'essence générique du sentiment. Cette essence, je la situerai donc dans le plaisir et le déplaisir. Ce qui fait dans cette perspective la spécificité du sentiment, terme que je tiens pour totalement synonyme de celui de vécu affectif ou de sphère de l'affectivité, disons, ce qui fait donc cette spécificité, c'est la non-neutralité hédonique, c'est-à-dire la différence hédonique, au sens de non-indifférence. Le sentiment est par essence ce qui m'affecte, c'est-à-dire ce qui me touche, ce qui a un sens affectif pour moi. À l'inverse, le simple vécu cognitif, la simple représentation perceptive ou imaginative neutre hédoniquement, le simple calcul ou jugement dépourvu de sens affectif est exclu de la sphère sentimentale. L'unité de cette essence autorise cependant l'existence d'une multiplicité d'espèces affectives. Et en particulier, le sentiment doit être divisé en deux classes fondamentales que l'on a déjà esquissées, les désirs et les émotions. Tous les deux sont liés intrinsèquement au plaisir et au déplaisir, mais demeurent irréductibles l'un à l'autre. Un désir, tout d'abord, est une motivation à réaliser un état de choses. La réalisation de cet état de choses s'accompagne de plaisir, sa non-réalisation de plaisir, ce qui justifie le placement du désir au sein de cette sphère de l'affectivité. En fonction de leur force motivationnelle, les désirs sont dits plus ou moins puissants, plus ou moins intenses, comme on l'a noté dans le cas de l'amour déjà. En outre, le désir peut être plus positif ou négatif, comme on l'a noté dans le cas de la peur. Un désir négatif, autrement dit une crainte, est une motivation à éviter un état de choses. Désir et crainte forment ce qu'on pourrait appeler la sphère conative de l'affectivité. À cette sphère conative s'oppose la sphère émotionnelle, au sens strict. L'émotion, comme on l'a vu dans le cas de la peur, n'est pas déterminée par une matière spécifique qu'elle tendrait à faire être, à faire advenir ou à éviter. La notion de réalisation, au fond, est étrangère à l'émotion, au sens précis, qui est ici donné à ce terme. En quoi consiste-t-elle dès lors ? Commençons par définir l'excitation comme la force d'un désir et l'inhibition comme la force d'une crainte. Il faut noter que cette excitation et cette inhibition peuvent s'appliquer au même état de choses. Je peux tout à la fois désirer et craindre un état de choses donné, par exemple quitter mon boulot. Je définis alors l'émotion comme une transformation brutale et globale de notre système, de notre système de désir et de crainte, chacune des émotions étant caractérisée par une transformation spécifique. La peur, on l'a vu, augmente globalement l'inhibition, tandis que la colère la réduit. Inversement, la joie augmente globalement l'excitation, tandis que la tristesse la réduit. Peur, colère, joie et tristesse apparaissent ainsi comme les quatre émotions fondamentales dont toutes les autres sont formées. Par exemple, par variation temporelle, la tristesse durable étant dépression, la peur durable anxiété. Par variation d'intensité, la colère violente étant rage, la joie violente extase. Ou par fluctuation, la nostalgie étant ainsi une forme d'alternance entre joie et tristesse. C'est donc bien l'idée d'affect global qui est la marque générique de l'émotion. Celle-ci vient perturber les rapports habituels d'excitation et d'inhibition empiriquement appris, comme on l'a vu avec l'exemple du feu qui brûle ou du feu rouge, et modifie ainsi l'équilibre global du système cognitif. Dans cette mesure, on peut comparer l'émotion à l'ivresse ou à la fatigue, qui me semble être les phénomènes qui sont le plus proches phénoménologiquement de ce qu'est l'émotion dans son essence. Précisément parce que l'ivresse, l'ébriété ou la fatigue agissent sur l'ensemble des rapports d'excitation et d'inhibition. Il s'agit maintenant de se demander en dernier lieu si cette classification du sentiment nous permet de répondre à notre problématique initiale. Comment rendre compte, dans le cadre qui a été esquissé, de l'existence d'une légalité à la fois intra- et extra-affective ? On a déjà pré-indiqué, si l'on veut, des directions. En particulier, nous avons montré pourquoi l'amoureux ressent du plaisir lorsqu'il perçoit l'être aimé. C'était là un des exemples de légalité extra-affective que nous avions mentionné précédemment. Ce plaisir ressenti par l'amoureux ou l'amoureuse provient tout simplement de la nature de désir de l'amour, et plus précisément de la nature de désir de présence que l'on a développé tout à l'heure. Et du lien d'essence, bien sûr, entre réalisation d'un désir et plaisir. Au niveau de la légalité intra-affective, nous avons également montré que l'amour ne possédait pas de valence hédonique, et qu'il pouvait s'accompagner tout aussi bien de plaisir lorsqu'il est réalisé que de déplaisir lorsqu'il est frustré. On peut également interroger la peur sur ce même thème de la valence hédonique. Et de fait, la peur, et cela a déjà été aperçu par Aristote dans la rhétorique, est une souffrance, une lupée, comme il le dit, et donc possède une valence hédonique, contrairement à l'amour. Et de fait, l'existence d'une valence hédonique caractérise les émotions par rapport au désir. Ce dernier, d'une manière générale, est dépourvu de valence hédonique intrinsèque, puisqu'il peut par essence être satisfait ou non. En revanche, à chaque émotion est associée une unique polarité de plaisir. La peur, la colère, la tristesse sont accompagnées de peine, la joie est accompagnée de plaisir. On pourrait enfin étudier plus en détail les relations, non seulement entre d'une part les désirs et les émotions et d'autre part le plaisir, comme on vient de le faire, mais directement les relations qui subsistent entre les émotions et les désirs eux-mêmes. En fait, ces relations entre émotions et plaisir, cet entrelacement est de deux ordres. Tout d'abord, les émotions, on l'a dit, ont pour essence de perturber l'équilibre cognitif, d'où leur caractérisation aussi vieille que le stoïcisme de trouble ou de perturbatio en latin, de perturbation aujourd'hui qui est maintenue pour caractériser les phénomènes affectifs et les phénomènes émotionnels comme la peur. Et en cela, précisément, les émotions sont bien des affects. Elles affectent le système de désir en agissant globalement soit sur l'excitation, soit sur l'inhibition. Mais il faut encore ajouter un second mode de relation entre émotion et désir. En effet, les désirs, et plus précisément leur mode de réalisation, déclenchent les émotions. La peur n'est pas due au hasard, et de même la colère, la joie ou la tristesse. leurs occurrences dépendent de l'existence d'un schéma causal qu'il faut décrire en termes cognatifs, d'une genèse qu'il faut décrire précisément en termes de désir et de crainte. Par exemple, la peur est déclenchée par la perception d'un danger. Mais qu'est-ce qu'un danger ? C'est l'imminence de la réalisation d'une crainte importante. De même, la colère est provoquée par la perception d'un empêchement à la réalisation d'un désir. Je ne citerai ici que l'exemple paradigmatique de la colère suscitée par l'ordinateur qui refuse de s'allumer. La joie, quant à elle, est causée par la réalisation d'un désir structurant. On a élaboré un petit peu ce concept de désir structurant avec l'amour. Et la tristesse, inversement, par l'échec d'un tel désir structurant. Et ainsi, on peut approfondir la relation entre l'amour et les émotions. Non seulement la réalisation du désir qu'est l'amour, donc la présence de la personne aimée, suscite du plaisir, mais il faut aller plus loin, elle suscite de la joie. Et de même, la mort, par exemple, de la personne aimée ne suscite pas seulement de la peine, elle suscite une véritable tristesse et une dépression qui est la forme durable et intense de la tristesse. Ainsi, les émotions apparaissent-elles causalement déterminées par certains modes de réalisation ou de non-réalisation des désirs et des craintes. Pour conclure, ce schéma causal cognitif de l'émotion montre une nouvelle fois à quel point la sphère de l'affectivité est régie par des légalités des sens. Aux antipodes donc de tout ésotérisme, de toute célébration du mystère, le rôle de la philosophie affective et de la phénoménologie affective en particulier ne peut qu'être celui d'une élucidation progressive et rigoureuse à l'aide de définitions et de distinctions claires et exemplifiées de l'ensemble des phénomènes et des lois qui structurent ce champ affectif. Nathalie avait très justement parlé dans son introduction d'une ambition de tisser des liens entre les notions qui composent le titre de cette journée. J'espère que cette présentation a pu modestement contribuer à cette tâche. Je vous remercie pour votre attention.
You are now unmuted. Merci beaucoup. Peut-être je te laisse couper ton micro pour l'instant. Enfin, je ne sais pas si ça fait des... Ça va ? J'ai entendu un écho, mais...
Ouais. Je peux le couper, effectivement.
Enfin, je sais pas, c'est juste voilà, au cas où vous n'entendriez pas beaucoup, pas bien. Donc, merci beaucoup, hein, Alexis, pour cette présentation qui a vraiment la vertu d'essayer de penser rigoureusement le champ de l'émotion, disons, et à travers donc, le modèle que tu proposes d'articuler, en fait, ces notions de sentiments, désirs et émotions, notamment, ce qui est vraiment... pas simple, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu toutes les théories qui existent historiquement ou même de façon contemporaine dans les différentes sciences psychologiques et neurobiologiques, on a un peu l'impression que chacun y va de sa propre définition et que c'est très insatisfaisant. Il y a un côté arbitraire de certains choix, pas de, justement, avec peu de justification ni expérientielle ni théorique. Donc souvent, on a vraiment un sentiment de flottement ou que tout se vaut, finalement. Et donc, je pense qu'il y avait une vraie ambition justifiée dans ta présentation, d'essayer de rendre compte, justement, de structurer ce champ. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... Il y a l'exemple de la peur et de l'amour, donc avec vraiment des tentatives de mise en situation, à travers beaucoup d'exemples aussi empruntés à la littérature. Enfin, bon, voilà, ça me semble vraiment être un joli programme de travail. Ça me fait plaisir de t'entendre aussi, parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de voir ta progression. Donc, je trouve ça vraiment très très intéressant. Moi, j'aurais peut-être juste deux petites remarques, mais je voudrais pas monopoliser la parole, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Ou deux questions, plutôt deux interrogations. L'une concerne ton choix de distinguer entre crainte et peur. Donc, j'ai bien compris que c'est vraiment structurant. Et on voit bien intuitivement aussi le sens que ça peut avoir d'introduire la notion en français de crainte par rapport à la peur. Donc ça, je pense qu'intuitivement, on sent bien que dans la crainte, il y a quelque chose qui relève d'une temporalité et d'une force de motivation. Et donc ça me semble vraiment intéressant, parce que je pense que c'est une distinction que je ne connais pas, en fait, jusqu'à présent, qui n'avait pas été faite, à mon sens, à moins que... sauf erreur de ma part, ce qu'on connaît, la distinction entre la peur et l'angoisse, entre la peur, l'effroi et l'angoisse chez Freud. Mais là, du coup, tu introduis d'autres catégories, et c'est vraiment intéressant. Peut-être à ce propos, on pourrait se demander, mais alors, bon, c'est une interrogation, on pourrait se demander si... enfin, on pourrait interroger la nécessité de changer de terme. Enfin, est-ce que dans la peur, finalement, il n'y a pas déjà ces deux dimensions, à la fois de désir et d'émotion? Alors, je comprends bien que pour des raisons pédagogiques, enfin, et puis pratiques, il y a besoin de créer une distinction conceptuelle, mais je me demande si, en fait, le terme de peur, en tant que tel, il ne contient pas déjà ces deux aspects, à la fois d'une forme de dimension d'anxiété ou de stress, pour le reformuler, hein, quelque chose qui fait que je, voilà, j'ai quelque chose qui est là, mais je ne sais pas ce que, enfin, j'ai quelque chose qui est temporellement en attente, d'une certaine façon, et puis, effectivement, ensuite, ça va se cristalliser en sidération, en paralysie, mais est-ce que c'est pas un processus, finalement, qu'on pourrait décrire comme étant deux segments ou deux phases de la peur, une dynamique qui correspond à deux phases de l'expérience de la peur, ou est-ce que vraiment, enfin, voilà, la catégorisation est nécessaire? Pourquoi une différence catégorielle si c'est juste une différence d'intensité et une différence de phase temporelle? Est-ce que c'est vraiment complètement nécessaire? Enfin, et puis l'autre question, enfin, je me permets de, mais là c'est peut-être quelque chose que j'ai pas compris, c'est au moment où tu as proposé ton modèle avec le sentiment comme étant de l'ordre d'une essence caractérisée par, tu disais, non-indifférence hédonique, on pourrait parler en psychologie de valence, hein, le fait de parler d'avoir cette polarité. Donc tu caractérisais le sentiment comme cela, et ensuite tu disais à partir de là il y a deux classes, les désirs et les émotions. Et en fait, si j'ai bien compris, dans les désirs, dans la catégorie désir, à travers beaucoup d'autres caractéristiques, tu réintroduis donc la notion de valence. Enfin, il y a bien aussi une polarisation. Et tu dis au contraire, dans les émotions, il n'y a pas de valence. Il n'y a pas de polarisation. Et donc la question que je me posais, c'était d'un point de vue formel, comment est-ce que une essence peut donner deux classes dont l'une va garder la même propriété que l'essence et dont l'autre classe ou l'autre espèce ne va pas avoir cette propriété? Comment est-ce que logiquement tu envisages la chose? Parce que ça, j'ai eu du mal à saisir finalement comment on peut avoir dans l'essence une propriété générique qui est présente dans une des espèces et pas dans l'autre, en fait. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie pour ces questions qui sont très pertinentes. Effectivement, pour je vais peut-être commencer tout simplement par la première. Est-ce que je coupe ma caméra ou s'il n'y a pas de problème de son, je peux peut-être faire la laisser. Alors effectivement, donc première question, c'est sur la nécessité de distinguer, d'utiliser un deuxième mot qui est celui de crainte en plus de celui de peur. La question au fond, c'est est-ce que finalement cette différence entre crainte et peur, ce serait pas finalement simplement deux moments dans un même processus qu'on pourrait qualifié de manière unitaire comme celui de la peur. Alors, je pense qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, dans ma conception et d'après les exemples que j'utilise, on peut réussir à montrer qu'il ne s'agit pas simplement de deux moments d'un même processus. Il y a des différences vraiment très fortes entre les deux phénomènes. En particulier, on peut prendre un exemple que je n'ai pas utilisé, mais que j'avais utilisé en cours avec les élèves au début du semestre pour justement essayer de mettre en place ces distinctions entre émotion et désir dans mon cours sur les émotions, c'est l'exemple de la mort. Alors, en fait, d'une certaine manière, on craint toujours la mort. Et j'avais pris l'exemple habituel que j'ai déjà cité de la personne qui ne traverse pas la rue. Celui qui s'apprête à traverser la rue et qui voit, ou celui ou celle, oui, et qui voit un camion arriver sur lui ou sur elle, eh bien, il va avoir peur. Alors, je vais reprendre mon exemple. Je suis allé trop vite. Il ne va pas traverser. La personne ne va pas traverser la rue précisément parce qu'il craint de mourir si il traverse. Cette crainte, agit donc comme une force motivationnelle négative. Elle l'enjoint à ne pas traverser la rue. Pour moi, c'est effectivement la crainte de la mort qui est sous-jacente à cette force motivationnelle ici présente. Il y a une crainte qui est là et qui est précisément nécessaire dès lors qu'on veut comprendre comment on peut... la personne souhaite rentrer chez elle le plus vite possible, il y a donc un désir force motivationnelle à rentrer chez elle le plus vite possible. La route la plus courte passe par le fait de traverser la rue. Il y a donc un désir à entrer chez elle. Si elle reste bloquée, c'est qu'il y a une force motivationnelle en sens contraire, en quelque sorte, qui vient faire en sorte que la personne reste à sa place et reste immobile. Ici, on est dans le domaine de la crainte. Pourquoi ? Parce que on peut mettre en place un concept que je n'ai pas encore utilisé, qui est celui de rationalité. La personne est parfaitement lucide. C'est un choix rationnel ici de ne pas traverser. Il y a un danger qu'elle connaît empiriquement, qui est celui des risques qu'elle encourt à traverser une rue lorsque le feu est rouge. Ces risques sont de se blesser, voire de mourir. Et donc, d'une certaine manière, ici, la crainte de la mort est permanente. Elle est permanente et c'est cette crainte permanente de la mort qui joue le rôle motivationnel dans bien des cas, lorsque nous n'avançons pas dans le vide ou lorsque nous ne traversons pas au feu rouge. Et lorsque nous n'approchons pas d'un feu brûlant ou nous ne mettons pas notre main sur la plaque chaude, là, ici, c'est la crainte de se blesser. Ces craintes-là, elles sont structurantes parce qu'elles sont permanentes. Elles jouent un rôle motivationnel permanent et à partir d'elles, grâce à l'apprentissage, et ici, je reviens sur des analyses de Ledoux que j'ai pas mentionné, mais qui décrit tout le phénomène d'avoidance, d'évitement. En fait, à partir de ces craintes fondamentales, on arrive par association, à déterminer ceux qui les réalisent. Donc, on sait maintenant qu'en mettant la main sur la plaque chaude, on va se brûler, et donc le geste de mettre la main sur la plaque chaude, est inhibé. Cette inhibition, c'est l'essence de la crainte. Et elle a lieu en permanence. Et en particulier, elle a lieu dans des... Elle est la source même de la rationalité pratique, et elle a lieu indépendamment de toute sensation de perte de contrôle de soi, de tout trouble, de toute perturbation. Et elle nous guide dans notre action quotidienne, en fonction des dangers que l'on perçoit et de notre apprentissage de ce qui nous fait du mal, on agit et on a besoin de prendre ces informations-là comme input, en quelque sorte, dans nos délibérations. Ça, c'est l'essence de la crainte qui est donc, en fait, essentielle à la rationalité, c'est une condition de la rationalité. À l'inverse, la peur... Alors déjà, elle ne va, au niveau temporel, elle n'est pas une présence constante. Alors que la crainte, elle est en permanence là, la peur, elle se caractérise par le fait qu'il s'agit d'occurrences. Alors elles peuvent durer longtemps, justement, c'est ce que j'appellerais l'anxiété, une peur durable, une peur qui ne s'arrête jamais, quel que soit d'ailleurs ce qui la cause, finalement. Donc on a des temporalités différentes entre des peurs qui peuvent être très brèves et des peurs qui peuvent s'étaler temporalité beaucoup plus longue, mais le propre de la peur, c'est ce caractère occurrentiel. Et donc, on peut séparer des moments dans la vie de l'individu où il a peur, il n'a plus peur, il a peur, il n'a plus peur, etc. Et ça, c'est le propre de l'émotion. La colère, c'est la même chose. Les colères peuvent durer, peuvent être longues, mais elles apparaissent sur le mode de l'occurrence. Contrairement à la crainte, qui n'est pas une occurrence, qui est en fait en quelque sorte intégrée au système de désir de l'individu et qui définit sa manière dont il a appris le monde et son commerce avec le monde est régi par ses rapports de crainte et de désir qu'il a empiriquement appris, évidemment en fonction des perceptions qu'il a actuellement. Et donc si l'on revient sur ce critère de lucidité qui est aussi fondamental, la peur et l'émotion en général se caractérisent par cette perte de lucidité parce qu'elle modifie ce système de désir qui a été empiriquement et patiemment bâti par l'individu grâce à son commerce avec le monde, et elle le perturbe, elle le bouleverse instantanément, ce qui caractérise cette brutalité dont j'ai parlé. C'est ça qui est à l'origine de l'idée de trouble ou de perturbation qui est associée depuis presque la naissance de la philosophie à phénomènes affectifs. En fait, la crainte n'est pas du tout un trouble, alors que l'émotion est un trouble, et en particulier la peur. Et c'est ça qui caractérise l'irrationalité de la peur, c'est ça qui va nous faire faire des choses qu'on va ensuite être capable de regretter, en particulier. La crainte, on ne regrette jamais d'avoir agi sous le coup de la crainte, parce qu'on n'agit pas sous le coup de la crainte, en fait. On agit parce qu'on sait empiriquement que c'est dangereux. Donc la personne qui ne traverse pas au feu rouge, même si après on lui dit « tu es en retard, par exemple, tu aurais dû aller plus vite », elle ne va pas regretter de ne pas s'être dépêchée parce qu'elle sait qu'elle aurait encouru un véritable risque. À l'inverse, la personne qui, par exemple, sur un champ de bataille, prend peur, et cette peur, étant définie avec ces mots de Maupassant, cette sensation atroce qu'il nomme, parce qu'elle va le bloquer, le figer, alors, et dans certains cas, je n'ai pas pu le développer, mais aussi le faire fuir, cette inhibition brutale spéciale, une fois qu'elle disparaît, c'est-à-dire que l'individu retrouve son système de désir, je dirais, calme, normal, eh bien, l'individu va considérer son comportement comme parfait. Pusillanime, et donc va avoir honte de ce qu'il a fait et va regretter son action. Ce qui n'est jamais le cas dans la peur, dans la crainte. Pardon. Donc, à partir de ces deux distinctions en termes d'occurrence ou non et en termes de rationalité ou non, d'après moi, il faut effectivement mettre en place une distinction d'essence vraiment entre la peur et la crainte. Alors, un point sur lequel je n'ai pas eu le temps d'insister, mais qui est aussi très important, c'est j'ai juste évoqué, c'est l'idée que la crainte et la peur sont liées par essence, une fois qu'on les a distingués, il faut les, un peu comme chez Descartes, la distinction et l'union de l'âme et du corps, leur distinction d'essence n'interdit pas leur couplage. La peur se déclenche d'après un schéma cognitif en termes de réalisation d'une crainte. Une crainte est imminente et c'est ça qui déclenche la peur. Par exemple, c'est ce que j'avais commencé à dire, on commence à traverser, on voit le camion qui arrive sur nous. Ici, la crainte de la mort est en train de se réaliser ou est imminente. Et donc, c'est ça qui déclenche l'émotion de la peur au sens strict. Mais en fait, on voit bien toute la différence grâce à cet exemple du camion. Quand j'attends au feu rouge, je crains la mort. Quand je commence à traverser et que je vois le camion, j'ai peur de la mort. Et cette peur, c'est une sensation atroce et elle est déplaisante. Alors qu'à l'inverse, ici aussi, on voit une différence entre la crainte et la peur. Lorsque j'attends au feu rouge, je ne suis pas spécialement dans une situation de déplaisir. J'attends, je sais que je dois attendre, je suis en situation neutre hédoniquement, si l'on veut. À l'inverse, lorsque je vois le camion arriver sur moi, je suis en situation de déplaisir. Donc il y a une valence hédonique propre associée à chacune des émotions. Alors ça me permet d'arriver justement à la deuxième question qui portait justement sur cette idée de valence hédonique. En fait, il y a une équivoque dans ce mot, je vais essayer de la clarifier. Je définis donc la sphère affective comme la sphère du plaisir ou du déplaisir. Un vécu va être qualifié de vécu affectif si il a en lui une dimension de plaisir ou de déplaisir. C'est comme ça que ça me semble être la définition la plus large. C'est celle aussi que j'ai utilisée en cours d'ailleurs pour les élèves qui nous écoutent. C'est la définition la plus large, je pense, qu'on peut donner de la sphère de l'affectivité. Ensuite, pour moi, l'idée de valence hédonique, c'est l'idée que à un type de vécu particulier est associé toujours soit du plaisir, soit du déplaisir. Donc, par exemple, l'amour n'a pas de valence hédonique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas enchâssé avec le plaisir et le déplaisir, parce que c'est ce qu'on a vu avec Louise Labbé, au contraire. L'amour n'est que ça. Soit l'autre est présent, soit il est absent. Et donc, soit on a du plaisir, soit on a du déplaisir en permanence, avec ses fluctuations. Mais justement, ce qui fait, pour moi, la définition de quand un vécu a une valence hédonique, c'est qu'il n'y a pas de fluctuation. Au sens où, tout le temps, systématiquement, soit c'est le plaisir. Dans ce cas-là, il y a une valence hédonique positive, soit c'est le déplaisir. Et là, il y a une valence hédonique négative. Et ça, c'est le propre, pour moi, des émotions par rapport au désir. Dans le désir, il y a fluctuation, en fonction de la réalisation ou non, alors que dans l'émotion, il y a toujours une valence hédonique déterminée, fixe et immuable. Dans la peur, c'est le déplaisir à chaque fois. Il n'y a pas de peur plaisante, alors qu'il y a un amour plaisant, lorsque précisément l'autre est présent, l'être aimé. La joie est, à l'inverse, toujours plaisante. Donc, en fait, le terme de valence est ici un peu trompeur, je pense, parce que il faudrait décrire peut-être l'hédonicité comme la caractéristique générale de l'affectivité, mais l'hédonicité au sens de plaisir ou déplaisir. Voilà. C'est la différence hédonique. Il n'y a pas d'indifférence hédonique, il n'y a pas de neutralité hédonique. Et au sein de cette sphère, donc parmi tous ces vécus qui enveloppent plaisir et déplaisir, il y en a qui enveloppent toujours le même, voilà. Un seul des deux. Donc la peur, elle enveloppe toujours du déplaisir, et la joie, toujours du plaisir. Je ne sais pas si j'ai pu être assez clair, j'étais peut-être un peu long sur ces réponses.
Il faudrait sans doute discuter encore. Enfin, merci en tout cas, c'est une clarification. Je ne sais pas si le terme de valence d'ailleurs est mieux adapté. Peut-être que ça crée plus d'équivoque qu'autre chose, enfin, de parler de valence. C'est moi qui l'ai introduit, en fait. Hein. Toi, tu ne l'as pas utilisé. Donc, du coup, peut-être faudrait revoir ça pour mieux caractériser.
J'en avais un petit peu parlé quand même, je crois, dans la conclusion, j'avais
Ah,
utilisé
tu l'as utilisé à ce moment-là, d'accord, je l'avais noté, mais
Mais oui, effectivement, c'est
je ne suis
possible.
pas
Enfin, il y a
sûre que
des
ce soit. Enfin, voilà, j'ai un peu un doute sur sa pertinence, en tout cas au vu de la catégorisation que tu proposes, enfin, ce serait à voir. Enfin, et sinon, sur la distinction crainte-peur, enfin, je pense que dans l'expérience, dans l'intuition, en fait, on voit bien la différence. Après, c'est peut-être un problème terminologique, enfin, mais. Parce qu'on pourrait aussi déplacer la distinction en disant bah, ce que tu appelles la crainte, c'est la peur, et en fait ce que tu appelles la peur, c'est l'effroi. Bon, mais voilà, après, c'est peut-être juste un déplacement nominal, enfin je sais pas. Mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole, je sais qu'il y a Aurélien qui veut prendre la parole, donc voilà,
Oui, non, très rapidement, c'est parce que merci beaucoup Alexis pour ton exposé très rigoureux et puis avec des références communes avec toi. Donc je trouve que c'est une base très claire pour discuter justement de l'affectivité. Donc je te remercie. Une question un peu assez rapide en trois petits points. En fait, d'abord, donc moi je veux juste te reposer des questions sur l'amour, justement. Tu fais une différence, tu as parlé de différence de degré dans le désir entre amitié et amour-passion. Et comme tu parles de l'amour comme affect, enfin globalement, de manière très large, est-ce que tu fais à chaque fois des différences de degré entre toutes formes d'amour ou est-ce que tu penses aussi des différences de nature? Ça, c'est la première petite question. Est-ce que au sein ensuite de tes différenciations entre amour, tu places l'éros? C'est-à-dire l'amour-passion au sommet, ou comme le plus puissant amour, ou alors est-ce que tu vois des amours plus puissants encore? Et puis enfin, dernière petite question je me suis posée, est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on peut imaginer, en tout cas on a l'impression que certains textes pourraient aller en ce sens, d'une certaine peur, ou alors d'une crainte, je ne sais pas ce que tu dirais, d'une peur ou d'une crainte dans l'amour lui-même, c'est-à-dire par exemple, pas seulement en l'absence de l'aimer, mais justement à l'approche de l'aimer. Quand on est presque, tu vois, cette tétanie que peut susciter l'approche de l'aimer. Et donc à ce moment-là, s'il y a bien une petite peur ou une crainte, enfin une grande peur, à côté de l'aimer, comment on articulerait tes deux moments, justement, désir de l'amour et crainte ou peur? Merci beaucoup Aurélien, c'est des questions qui obligent à rentrer un peu dans le là, dans le vif du sujet, des questions difficiles. Alors pour la première, effectivement, sur les différents types d'amour, je pense qu'on peut répondre de deux manières. Enfin, les deux différences, soit par degré, soit par nature, sont pas totalement incompatibles, contrairement à ce qui pourrait sembler. En fait, je dirais deux choses. Effectivement, pour moi, on a d'abord, c'est ce qui me semble le plus certain, une différence effectivement de degré. C'est-à-dire, comme j'ai essayé de le montrer, le désir qu'est l'amour, pour utiliser des termes précis, dans l'amour-passion et dans l'amour-amitié, n'ont pas le même caractère dominant, n'exercent pas la même domination sur la vie totale de l'individu. L'absence d'un ami peut être douloureuse, jamais au point de l'absence de l'être aimé dans l'amour-passion. Parce que précisément, l'être à qui il manque un ami a d'autres fins, d'autres amis, ne serait-ce que cela. Déjà, c'est ce qui permet la pluralité déjà de l'amitié. Et il a peut-être aussi un amour, au sens de l'amour-passion, qui est présent, ou d'autres fins qui peuvent être de réussir un examen, ou de réussir une carrière professionnelle, ou d'amasser de l'argent, ou que sais-je. Et donc, ces autres fins ont une force qui est semblable à celle de la présence de l'ami, et donc ne crée pas, lorsque l'ami n'est pas présent, ce vide affreux, atroce, que crée l'absence au sens fort de l'être aimé dans l'amour-passion. Mais en même temps, effectivement, la différence de degré semble un peu phénoménologiquement un peu faible, parce qu'effectivement, ne serait-ce qu'au niveau comportemental, on n'a pas les mêmes attitudes face à l'ami et à la personne aimée dans l'amour-passion. Alors, ce que je dirais, et la réponse vaudrait aussi pour l'amour vis-à-vis des parents, par exemple, qui est encore peut-être un amour de type différent. Eh bien, si on reprend l'approche génétique que j'ai essayé de développer, l'amour se développe donc dans le cadre d'une association entre un objet et le plaisir. Mais en fait, cet objet que l'on aime peut apparaître dans des situations très différentes. Là, j'ai cité l'exemple de la mère qui apparaît nourrisson dans des situations de réalisation de ses besoins primitifs. Mais en fait, on pourrait imaginer l'idée que la personne apparaît toujours associée avec du plaisir, parce que ça, c'est la condition nécessaire de l'amour, mais dans des situations différentes. Elle répond à des satisfactions et à des désirs antérieurs qui sont différents. Donc, par exemple, l'ami, ça va être, alors si on reprend la tripartition d'Aristote, l'ami par intérêt, l'ami par plaisir et l'ami par vertu. Ici, on voit bien qu'on a à nouveau des sphères dans lesquelles l'autre va être associé au plaisir qui sont distinctes. Et l'amoureux va être encore, au sens de l'amour passion, va être encore associé au plaisir dans des sphères d'activité, disons, dans une sphère pratique ou dans des conduites qui sont distinctes. Et dans ces cas-là, d'une certaine manière, le désir qu'est l'amour va à chaque fois chercher à rendre présent l'autre, mais pas seulement le rendre présent en général, mais le rendre présent dans les situations où précisément le plaisir a été associé à l'autre. Donc d'une certaine manière, l'amour passion, c'est la situation dans laquelle on cherche à faire apparaître, on cherche à rendre présent l'autre en permanence, tout le temps, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. À l'inverse, l'ami, on va le désirer, chercher à le rendre présent dans des situations plus spécifiques, plus restreintes. Il n'a plus cette universalité du désir qu'on observe dans l'amour-passion. Ça va être avec lui pour boire une bière, être avec lui pour discuter, être avec lui quand ça va pas bien, etc. Et encore différemment pour la mère, où finalement, il va y avoir une recherche de la présence maternelle dans des situations où on a peur, dans des situations où on a besoin de ce réconfort parental, etc. Donc, d'une certaine manière, l'amour-passion va exercer une universalité. Il va s'exercer dans un cadre plus universel que les autres amours, les autres formes d'amour, ce qui pourrait expliquer cette distinction de degré, ce qui pourrait expliquer cette distinction en plus donc, de la distinction de degré. Alors, est-ce que l'éros est au sommet? Je pense qu'on peut imaginer une forme d'amour passion sans phénomène érotique au sens de la sexualité. Un amour platonique qui serait tout de même une passion la plus totale et la plus puissante. En fait, je caractériserais vraiment la forme érotique. Là, j'avoue que je n'ai pas d'opinion ferme là-dessus. Effectivement, dans l'éros, on a cette union, cette fusion qui assure une présence absolue et totale de l'autre, mais en même temps, on pourrait tout à fait imaginer une présence absolue de l'autre dans un peu comme dans la romance entre Héloïse et Abélard, où à la fois il y avait cette présence charnelle, mais aussi des discussions philosophiques, spirituelles, religieuses, dans lesquelles finalement ils étaient présents l'un à l'autre de manière tout aussi puissante et totale que dans l'acte sexuel. Et d'une certaine manière, une fois qu'Abélard a subi son supplice, eh bien, ils pouvaient continuer à vivre leur passion parce qu'ils avaient aussi cette union spirituelle qui, pour moi, peut être aussi forte que l'union charnelle érotique. Donc, je ne sais pas. Il faudrait creuser. C'est des questions qui restent à creuser, en tout cas. Voilà, c'est juste quelques pistes pour y répondre. Alors, sur la dernière question, effectivement, c'est très intéressant, cette idée de peur dans l'amour, parce qu'elle est évidemment phénoménologiquement indubitable. Lorsqu'on voit l'être aimé arriver, on n'est pas pris simplement d'une extase et d'une sérénité, d'une béatitude totale, bien plutôt, lorsque ce sont les prémices de l'amour notamment, on a ce tremblement, ce frissonnement, cette situation d'inquiétude. Qui nous fait même parfois reculer face à l'autre ou bégayer. Et là, il s'agit clairement de phénomènes d'inhibition. Alors pour moi, il s'agit clairement d'une peur. Là, on a cette sensation atroce hein, qui s'apparente à cette peur d'un examen, mais en même temps mêlée tout de même du plaisir de la présence de l'autre. Alors comment on interpréterait ça? Je pense que la notion de kairos, elle peut être ici intéressante parce que le désir de présence de l'être aimé il ne se satisfait pas simplement de la présence actuelle de l'autre. Il veut établir, il veut cette présence, il veut s'en assurer, garantir cette présence sur le long terme. C'est aussi ça qui fait, à mon avis, l'essence du fait que on trouve du plaisir dans le bien de l'être aimé. Son bien, c'est ce que cette surprésence que recherche l'amoureux ou l'amoureuse, elle part du fait biologique que lorsque l'autre est en pleine santé et va bien et voit ses désirs réalisés, etc., il s'éloigne de l'amour. Et donc, il est présent sur le long terme, disons. Il y a une garantie de présence qui est établie. Eh bien, là, il y a le même phénomène à un degré plus simple. Lorsque je vois l'autre, si je me rends ridicule, par exemple, aux yeux de l'aimant, tout simplement haïssable ou inintéressant, eh bien, l'autre ne va pas chercher à me revoir, voire va m'éviter. Et donc, forcément, cet évitement de l'autre, il serait cause de mon malheur. Et là, forcément, on a une situation de crainte, parce qu'on craint que l'autre ne nous aime pas, ou plus prosaïquement, qu'il nous trouve inintéressant, ridicule, ou qu'il nous délaisse. Et donc ça, c'est de nature à générer, effectivement, de la peur. On a une crainte, et précisément, lorsque l'autre se rapproche, cette crainte, elle est sur le point de se réaliser, d'une certaine manière. On est toujours un bégayement près d'être ridicule, ou à une chute près d'être moqué par l'être aimé, et ça nous en éloignerait finalement de manière irrévocable. Donc ça, cette idée de Kairos, c'est que lorsque je vois l'autre, à la fois je réalise mon désir, et donc c'est ça qui fait cette excitation suprême, et en même temps, je joue au sens d'un jeu, c'est là que tout se joue, je joue la présence future de l'autre auprès de moi, en fonction de si j'arrive à lui plaire ou non, etc. Voilà comment j'articulerais les deux dans cette situation qui est effectivement phénoménologiquement complexe et très intéressante.
Mais merci beaucoup, merci pour les réponses.
merci pour l'échange. Alors il y a une question de Francisco qui ne peut pas apparemment parler directement, donc vous l'avez sous les yeux, je la formule pour l'enregistrement. Est-il possible de penser un concept d'amour au-delà de la jouissance, dans le sens d'un sacrifice, sans devenir autodestruction, où l'autre devient plus important que l'autophanie, l'amour pour le bien, par exemple, chez Platon?
Donc, il s'agirait d'un amour qui soit à la fois sacrificiel, mais sans autodestruction, c'est bien, si j'ai bien saisi, où l'autre devient plus important que l'autophanie. Alors effectivement, ça, je pense que c'est la dimension la plus claire pour moi pour répondre à cette question, c'est l'idée que dans l'amour, on a cette capacité à placer la présence de l'autre au-dessus de sa vie. Donc ça rejoint cette idée de sacrifice. On a beaucoup ça chez Scheller aussi. Il y a des valeurs supérieures à la vie. Et ça, je suis totalement d'accord avec cette analyse schellérienne. Dans le vocabulaire, dans la terminologie que j'utilise, il y a, où la notion de valeur est une notion secondaire, je pars de ce concept de désir, il y a des désirs qui sont supérieurs à celui de vivre. Et empiriquement, ça s'est observé à chaque fois qu'il y a effectivement ces phénomènes de sacrifice. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait de placer la présence de l'autre au-dessus de sa propre vie. Eh bien, ce n'est pas une autodestruction, parce que c'est une réalisation de soi. On peut faire un parallèle ici avec Achille, lorsqu'il apprend avant de partir à la guerre de Troie qu'il a le choix entre rester auprès de sa famille et vivre une vie longue et heureuse, mais sans gloire, ou aller au combat, mourir jeune, mais les siècles se rappelleront son nom. Il choisit d'aller au combat. Il choisit d'aller au combat. Et ce faisant, il meurt, mais en réalisant ainsi son désir le plus élevé, qui est précisément que son nom reste évoqué par les siècles futurs et entouré, auréolé de gloire. Et là, c'est la même structure, disons, cognitive qui est à l'œuvre. C'est le fait que le désir de la présence de l'autre, si l'on doit passer par sa propre suppression, sa propre mort, eh bien, c'est pas grave. À l'inverse, évidemment, puisque le désir de l'autre est structurant, si je continue à vivre, mais que l'autre n'est plus présent, pour quelque raison que ce soit, eh bien, la vie n'a plus de sens. C'est un topos, hein, mais les vers de Hölderlin montrent très bien. Et finalement, en choisissant la vie par rapport à la présence de l'autre, on perd les deux. Parce que notre vie n'ayant plus de sens, eh bien, on perd aussi sa vie. Donc, devant ce choix, on choisit finalement la mort, mais la réalisation de notre désir. Voilà ce que je pourrais dire pour cette question très intéressante.
Merci Alexis. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va, étant donné l'heure, on a là maintenant une petite demi-heure de retard, une grosse demi-heure de retard, mais c'est pas très grave. Donc, merci pour ta conférence et pour l'échange très riche qui s'en est suivi.